C'est d'autant plus difficile à repérer qu'une forme de consensus domine qui associe corporité féminine et injonction esthétique. Avoir un corps de femme, c'est accepter de le soumettre au façonnage d'une société néolibérale obsédée par la performance et l'excellence. C'est aussi accepter d'en être dépossédé par une société patriarcale qui considère les corps féminins comme des objets malléables, appropriables, jetables. Simone de Beauvoir a longuement décrit les mécanismes par lesquels les filles apprennent à être des femmes, c'est-à-dire à être l'objet. Leur corps, écrit-elle dans le deuxième sexe, n'est pas saisi comme le rayonnement d'une subjectivité, mais comme une chose empâtée dans son immanence. Il ne doit pas être promesse d'autre chose que de lui-même. Dès l'enfance, la poupée que l'on donne à la fillette lui indique sa vocation. Elle sera une chose passive et soumise, destinée à satisfaire les hommes. On comprend, écrit Beauvoir, que le souci de son apparence physique puisse devenir une véritable obsession. Princesse ou bergère, il faut toujours être jolie pour conquérir l'amour et le bonheur. Ce que la philosophe ne précise pas, c'est que la quête éperdue de cette belle image de soi est inséparable d'une dynamique de rivalité entre femmes qui ne disparaîtra jamais, pas même après qu'elles aient été mises au rebut et invisibilisées pour cause de cinquantaine. L'organisation perpétuée de la concurrence intra-féminine constitue un ressort particulièrement efficace du système patriarcal. Selon Sylvie Barbe, citée par Jeanne Burgat-Goutal, la mésestime intériorisée fait le lit de l'aliénation. L'assignation des femmes à leur corps sexuel et maternel, telle qu'elle a été théorisée dans l'Antiquité, puis perpétuée et renforcée à travers les siècles par-delà même le tournant de la modernité démocratique, est le socle de cette mésestime intériorisée. Réduite à la fonction procréatrice, les filles doivent devenir des corps disponibles et accepter d'offrir ceci à la prise masculine sous la forme la plus désirable possible. Elles passent ensuite leur vie à tenter de conformer leur apparence aux normes esthétiques édictées par celles et ceux qui font leur profit des injonctions à toujours plus de beauté, de minceur et de jeunesse, et dont l'emprise est devenue tentaculaire depuis que les règles du marché caractérisent aussi les relations entre les êtres eux-mêmes, imposant à chacune une mise en scène de soi quasi publicitaire. Et voilà les jeunes filles occupées quotidiennement à s'afficher sur les écrans glacés dans l'attente angoissée de la validation sociale de leur image. Pendant qu'elles sont ainsi accaparées par l'exigence de modeler leur visage et leur corps au moyen de filtres magiques, pendant que leur mère s'échine à perdre du ventre, à muscler leurs fesses ou à gommer leurs imperfections, le monde des hommes continue de tourner sans elles. Tout ce temps passé à s'embellir et à quêter une attention fugace constitue évidemment du temps perdu pour les études et pour les projets, et ce sont alors autant de possibilités et de conquêtes qui s'évanouissent. Le patriarcat néolibéral se perpétue ainsi à la faveur de ce mécanisme bien huilé de la compétition entre femmes qui les somme de faire passer le paraître avant tout le reste. Mais le plus grave est encore ailleurs. Il réside dans les effets dévastateurs de ce système de mise en rivalité perpétuelle sur les relations que les femmes entretiennent entre elles. Le temps consacré au modelage de soi est aussi et surtout un temps fichu pour la sororité. Comment se soutenir quand tout est fait pour que nous nous réjouissions de la mauvaise mine de l'autre, ou des kilos en trop de l'autre? Comment rester bienveillante avec nos amis quand nous ne sommes même pas capables de considérer notre propre physique avec indulgence et amour? Le flux incessant des injonctions esthétiques produit un double ravage. Il rend très difficile, voire impossible, de vivre sereinement son corps tel qu'il est, et il empêche les femmes de nouer entre elles des liens sororaux. Je m'aperçois qu'il faudrait que je conclue.
Ça va,
un peu de temps. 5 minutes. J'en ai pour 5 minutes. Insatisfaites ou malheureuses de leur apparence, les femmes souffrent de surcroît de ne pas pouvoir compter les unes sur les autres pour s'extirper de cette spirale de détestation. Seules peut-être les lesbiennes qui échappent aux dictats patriarcaux parce qu'elles vivent une sexualité affranchie des codes hétéronormés peuvent espérer y trouver un rapport sain et décomplexé à leur corporité. Pour les autres, toutes les autres, une telle sérénité est inconcevable. C'est du moins ainsi que les choses ont fonctionné jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération féministe décide de renverser la logique patriarcale de l'aliénation corporelle et de la compétition intra-féminine. Le rejet de l'appropriation du corps féminin s'est toujours exprimé de façon privilégiée au sein de cercles de parole réservés aux femmes. À ceux qui brandissaient petits livres et grands concepts pour en appeler à une révolution bien peu soucieuse d'égalité entre les sexes, les féministes de la deuxième vague ont opposé la parole en première personne, assumant cette exposition de soi intime et affective comme un véritable engagement. Nous pensons que nos sentiments racontent quelque chose qui nous éclaire. Nous pensons que nos sentiments signifient quelque chose qui vaut la peine d'être analysé. Nous pensons que nos sentiments disent quelque chose de politique, écrivait une féministe radicale américaine, fondatrice de groupes de conscientisation au sein desquels, après avoir partagé leurs histoires personnelles, les femmes réalisaient des collages d'expériences similaires qui débouchaient sur la compréhension de la réalité sociale de leur oppression. Ainsi s'enclenchait une dynamique politique et collective née de la réunion des subjectivités singulières et du partage des expériences vécues. Nous vivons aujourd'hui une réactivation de cette sociabilité féministe fondée sur la mise en commun de récits de soi au prisme du corps. Celle-ci produit une prise de conscience de l'oppression patriarcale qui débouche sur la décision de s'en libérer par l'action politique et de le faire soi-même, car ce sont les femmes elles-mêmes qui se sont toujours chargées de leur propre libération. On passe ainsi du « je » de la prise de parole au « nous » de la lutte. Mais s'il se trouve que ce « nous » n'existe pas en tant que collectif homogène, la domination subie n'étant pas univoquement rapportée au genre, mais renvoyant toujours à d'autres facteurs, qu'ils soient sociaux, économiques, culturels, raciaux, sexuels ou encore associés à l'âge. Les sous-ensembles, les communautés qu'il est possible de délimiter à partir de ces nœuds formés par l'entrecroisement de tel et tel facteur d'oppression, s'avèrent si divers que le sujet politique du féminisme s'en trouve redéfini. Il n'y a plus de « nous les femmes », il n'y a plus que des groupes aux contours mouvants, susceptibles de se retrouver autour d'un même objectif politique un jour, pour former une coalition, et c'est un mot que je trouve important, une coalition différente un autre jour. Si le fil rouge patriarcal relie ces entités fluides, celles-ci ne peuvent penser et encore moins mettre en œuvre la libération des femmes. Il s'agit toujours de considérer les modalités singulières dans lesquelles la domination masculine est éprouvée, selon une approche inclusive qui prête attention à la situation des femmes invisibilisées parce que discriminées et minorisées. De cette indépassable pluralité du sujet politique du féminisme, il découle une exigence relative à ce qui peut malgré tout faire lien, à ce qui doit envers et contre tout faire lien. Je la qualifie d'exigence sororale. La sororité n'est pas une simple injonction affective nous enjoignant de rester bienveillantes les unes envers les autres. Elle s'avère foncièrement politique en ce qu'elle constitue le ciment de tout l'édifice féministe. Sans attention empathique aux conditions dans lesquelles tel groupe de femmes éprouve sa condition d'objectivation-aliénation, il n'y a pas de projet d'émancipation digne de ce nom. Sans résistance à la logique individualiste du patriarcat néolibéral, il ne peut y avoir d'effectivité collective de la dynamique féministe. Il s'agit donc de faire de l'exigence sororale un a priori féministe, au sens d'un a priori quasi éthique. Quelles que soient les options théoriques et militantes de chacune, toutes les autres doivent être accueillies et acceptées, ce qui implique de ne pas fustiger l'une ou l'autre pour les positions qu'elle défend, ce qui implique l'amabilité dans la forme des relations entre féministes, ce qui implique l'acceptation du dissensus sur le fond des arguments avancés comme des actions proposées. Je ne défends pas le mythe d'une unité pacifiée du féminisme, la chose est non seulement impossible, elle n'est pas souhaitable, tant il me paraît important de laisser la puissance réflexive féministe bouillonner. Ce que je défends, c'est l'idée d'une posture sororale a priori qui permette de concevoir un horizon de lutte certes hétérogène, mais cohérent. Ne reproduisons pas dans le champ féministe cette logique patriarcale de la détestation entre femmes et soyons résolus d'être sororales. Cela implique une véritable décision, car la sororité résulte d'un processus volontaire. Elle s'apprend, elle se décide. Il faudrait pouvoir l'enseigner aux filles dès la puberté en les accompagnant dans le moment de la sexuation de leur corps, leur indiquer qu'elles ne se transforment pas d'un coup en objet appropriable, mais qu'elles deviennent ce qu'elles sont, des corps sujets d'action et de désir. En détruisant ainsi le socle de la rivalité entre femmes, on sapera l'un des ressorts les plus puissants du système patriarcal et on se débarrassera de cette posture quasi-réflexe par laquelle les femmes s'interdisent de se considérer les unes les autres comme des sœurs. Et je reviens à une citation de Jeanne Burgat-Boutal, qui illustre, je trouve, de façon idéale ce que je viens de dire. « Entre sœurs, on n'a pas besoin de plaire, d'intéresser ou de séduire pour s'aimer. On fait partie, voilà tout. » Et elle ajoute que c'est par le cercle qui réunit les femmes que se fait sentir cette appartenance sans condition. Et en guise de conclusion rapide, pour d'une certaine façon interpréter ma propre proposition, le fait que je termine ainsi sur une citation d'une autre théoricienne féministe, renvoie à une méthode sororale que je propose de généraliser, en tout cas que je m'efforce d'appliquer moi-même au quotidien, qui m'a été inspirée à moi et à d'autres par les femmes qui faisaient partie de la première administration Obama et qu'elles ont appelée la méthode de l'amplification. elles avaient remarqué que lors des réunions du cabinet, les hommes prenaient la parole, souvent en interrompant les femmes, et plus souvent encore en s'appropriant des éléments qui avaient été avancés, proposés par d'autres femmes. Et donc, elles avaient décidé, donc, par cette méthode de l'amplification, de systématiquement commencer toute prise de parole par le fait de renvoyer à la parole d'une autre femme avant elle, d'abord pour lui faire le crédit de ses propos, et ensuite pour amplifier ses propos. Et donc, dès que je prends la parole ou qu'on me demande de parler de quelque chose, je fais en sorte d'amplifier la parole d'autres femmes, parce que je crois que c'est par ce réseau d'amplification des paroles féministes que la sororité peut bel et bien se déployer dans toutes ses dimensions, et notamment incarner. Je vous remercie.